Alexandra Ben Saïd.
Sortez les outils, affûtez les méninges. Ce matin dans le Magéco, on démonte Dassmodell. Oui, l'Allemagne, première puissance économique européenne. Oui, Berlin qui aligne les plus pendant que Paris encaisse ses moins. Pour une Allemagne où il fait bon vivre, c'est le slogan d'Angela Merkel. Damit Deutschland oben bleibt, un autre slogan de la CDU, pour que l'Allemagne continue sur la route du succès. Et si notre voisin était moins stable qu'il n'y paraît? Et si dans le match France-Allemagne, tout n'était pas déjà plié? Vous pensez que je fais de la provoque? Vous pensez que je pousse le bouchon un peu loin? Débat grand format ce matin dans le Magéco. Je pose la question à mon invité. Bonjour Odile Chani.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Allemagne, co-auteur de ce livre « Faut-il suivre le modèle allemand ?» Odile Chani, bien sûr, pour débattre avec vous. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Emmanuel Le Chip, BFM Business.
Bonjour à tous. Moi, j'ai fait espagnol.
On se retrouve dans quelques secondes, le temps de vous donner le reste du programme. Londres qui retire sa licence à Uber. Uber, sacré coup de tonnerre, nous serons en ligne avec notre correspondant. À 9h45, mon invité, ce sera Frédéric Mazzella, le patron de Blablacar. Tiens, on le fera réagir. Et puis évidemment, ma vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Ce matin, question de François Sûr.
L'arrondi sur salaire, c'est micro-dons qu'on peut verser aux associations.
Je vois que vous ouvrez toute une perspective à Emmanuel Le Chip. On se retrouvera juste avant 10h. Mais tout de suite, Dassmodell est-il fait pour durer? C'est le débat.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
L'Allemagne est-elle vraiment un modèle ?
Modèle.
Modèle, un modèle ?
Modèle allemand.
Le modèle allemand ?
Ah, le modèle allemand.
Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à prendre chez les Allemands pour améliorer les choses chez nous ?
Je ne dis pas que c'est génial l'Allemagne.
Philippe Manière.
Je ne dis pas que c'est génial.
Ancien directeur de l'Institut Montaigne.
Je dis qu'objectivement, les protections sont moindres et que presque tout le monde est au boulot. Point barre.
Ah, c'est du flexible.
La flexibilité de l'emploi n'a pas mené à un décollage économique.
Sabine Reignier.
La flexibilité de l'emploi a juste distribué les heures de travail autrement.
Porte-parole du syndicat Ferdi.
Mais au prix d'une division du marché de l'emploi. Il y a ceux qui travaillent beaucoup et longtemps et ceux qui travaillent peu d'heures et ont un salaire très bas.
Est-ce que l'Allemagne est un bon
modèle?
Un modèle?
Modèle?
Un modèle de flexibilité.
De nombreuses personnalités vantent le modèle allemand.
Mettons en effet que le gouvernement...
Pierre Gattaz, président du MEDEF.
Prennent ses responsabilités aussi, comme Schröder et Hartz les ont prises en 2003.
Peter Hartz,
une économie qui veut croître,
initiateur des réformes du marché du travail allemand,
a besoin à la fois d'emplois à temps complet, d'emplois à temps partiel, mais également de ces petits emplois. Nous avons besoin de flexibilité.
Michael Ennard.
C'est une perversion que l'Allemagne soit un des pays les plus riches d'Europe.
Porte-parole du syndicat IG Metall.
Mais le pays avec le plus fort taux de travailleurs précaires.
Modèle.
Modèle, un modèle. Le modèle allemand.
Non, le sujet, c'est le modèle.
C'est ça, le sujet. Est-ce que c'est un modèle?
Jean-Luc Mélenchon.
On n'a pas le droit de faire des excédents au-delà d'une certaine proportion.
Député La France Insoumise.
Parce que ça veut dire qu'on le fait au détriment de tous les autres. C'est ça que font les Allemands. Ce sont les passagers clandestins d'Europe.
Sur nos excédents,
Angela Merkel.
Nous pourrions en investir un tiers, voire plus pour les familles et pour la jeunesse.
Chancelière allemande.
Mais quand on regarde les comptes, il faut des limites et rester sérieux et crédible.
Ça vous gêne de l'Europe de critiquer Angela Merkel?
Mais parce que je pense que...
Éric Woerth.
Franchement, je veux dire que si les Français étaient en Allemagne, ils seraient plutôt heureux.
Député Les Républicains.
Alors, est-ce que vous auriez... l'Allemagne bashing, il y a des limites.
L'Allemagne bashing, il y a des limites. Odile Chani, vous la spécialiste de l'Allemagne, bah, je vais me tourner vers vous. Est-ce que les Allemands, dont on dit qu'ils sont prêts à réélire Angela Merkel, est-ce que les Allemands ont des raisons économiques de faire du dégagisme? Non.
En fait, pour être un petit peu provocatrice, on peut dire que le bilan d'Angela Merkel, il est plutôt positif. Quand elle est arrivée au pouvoir, quand la première coalition qu'elle a présidée est arrivée au pouvoir en 2005, taux de chômage était à 10%, déficit des administrations publiques était supérieur à 3%, la dette était supérieure à 60%. Et en fait... Elle a réussi, enfin sur tous les mandats, les trois coalitions qu'elle a gouvernées, elle a un bilan qui est plutôt très bon.
Alors allez-y, donnez-nous les chiffres.
Quand on regarde, par exemple, le taux de chômage, on est inférieur à 4%. On a un excédent un excédent
commercial
public. Ouais, on a public. Un excédent. On a une balance des paiements qui est de l'ordre de 8-9% du PIB. On a aussi, en fait, et c'est ça qui est plus intéressant, c'est-à-dire que quand on regarde du côté des indicateurs d'inégalité et de pauvreté, en gros, ces indicateurs-là, en fait, ont plutôt eu tendance à se stabiliser sur la période de qui s'est écoulée depuis 2005. C'est-à-dire que le taux de pauvreté avait atteint un point haut en 2005, qu'il a eu plutôt tendance à s'améliorer. Sauf sur la toute dernière période, mais ça, c'est un autre point et ça soulève pas mal d'interrogations. Quand on regarde aussi ces fameux indicateurs de bas salaire, ils ont aussi arrêté de progresser à peu près à ce moment-là. Et puis, le dernier indicateur que j'aime bien mobiliser, c'est la fameuse modération salariale qui est censée avoir manifesté un jeu non coopératif de l'Allemagne. En fait, la modération salariale a pris fin aussi à peu près en 2007.
Donc, l'argument d'une Allemagne riche, mais où on voit monter les inégalités, les bas salaires, la précarité, là, vous êtes en train de nous tournebouler, Christian Chavagneux. C'est faux, tout ça?
Complètement. Je suis un peu surpris. En fait, ça dépend du point de base. Si on prend, en fait, les réformes libérales en Allemagne, elles ont commencé à la fin des années 90. Et puis, Schröder l'a vraiment institutionnalisé, a poussé plus loin. Et si on prend 2000-2016, qui n'est pas tout à fait le point de comparaison de uniquement Madame Merkel, là, quand même, les stats, moi, elles m'ont surprise. Hein, part de l'activité à temps partiel, pour les femmes à 80%, un quart de la population active. 7,8 millions de mini-jobs. 60% de femmes là-dedans, ça fait quand même 20% de la population active. Une grande majorité des gens qui travaillent en précarité. Après 7 ans de mini-job, après 7 ans, une femme sur 7 trouve un boulot à temps plein. Un quart seulement à temps partiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la grande majorité, un emploi précaire un jour, c'est un emploi précaire toujours en Allemagne.
Odile Chani, je redonne la parole, puis Emmanuel Le Chypre. Odile Chani.
Je partage absolument ces chiffres. Mais en fait, quand on essaye de répondre à la question que s'est-il passé depuis 2005, en gros, on peut dire que Angela Merkel a géré l'héritage de Schröder. Depuis 2005, en fait, d'une certaine manière, on est arrivé à une stabilisation à un niveau très préoccupant de tous les indicateurs que vous mentionnez. Mais, et j'ajouterai, je terminerai sur ce premier aperçu, cette première impression, en rajoutant quelques éléments, en rappelant qu'en fait, elle a même eu la possibilité d'introduire des éléments de re-régulation.
Vous pensez au salaire minimum?
C'est quand même sous Merkel que on a introduit le salaire minimum. C'est sous Merkel qu'on a re-régulé l'intérim. Alors, bon, ça peut se discuter parce que ça reste limité. Et les contrats de prestation de services. C'est aussi sous le dernier gouvernement qu'on a pu aussi améliorer, assouplir les conditions de départ à la retraite pour un certain nombre de seniors qui étaient quand même mangés à une sauce très rude depuis la réforme des retraites votée en 2001-2003. Et en fait, c'est vrai que quand vraiment on essaie de comprendre, de se dire le bilan est-il ou pas positif de ces gouvernements à elle, il est plutôt positif.
C'est moins pire, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est moins pire.
En fait, moi, je suis assez sévère avec Madame Merkel parce que elle a effectivement essentiellement géré. Il n'y a pas de grande réforme économique qui porte le nom de Madame Merkel. Alors, on peut parler du SMIC, mais enfin, dans un pays où les salaires sont plutôt globalement élevés, on ne peut pas dire que ça ait révolutionné la vie du pays. Elle n'a fait que gérer. D'ailleurs, Mouti, on l'appelle, c'est-à-dire voilà, c'est la mère de famille qui a géré des réformes qui ont effectivement. Alors, il y a toute une série de réformes. On ne va pas revenir sur les réformes Hartz. Moi, je veux souligner une réforme qu'on oublie souvent et qui résonne par rapport à nos problématiques en France aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une réforme de l'éducation. Hein, puisque je vous rappelle qu'à la fin des années 90, les Allemands sont mal classés dans les fameux classements PISA de l'OCDE et que, à la différence de la France, hein, qui est mal classée depuis longtemps, les Allemands ont réagi fortement et que une des raisons pour lesquelles aussi la situation économique s'est améliorée, c'est qu'il y a eu cette réforme de l'éducation. Mais Madame Merkel, elle a surtout tiré les fruits des réformes difficiles qui avaient été faites.
Si on veut être trivial, on peut dire que Schröder avait fait le sale boulot.
Donc Schröder a fait le sale boulot. Elle a effectivement
re-régulé, comme dit
Richani, quelques correctifs. Je trouve pas que son bilan de gestionnaire de la crise européenne ait été particulièrement remarquable. Elle a d'abord mis beaucoup de temps, alors que Nicolas Sarkozy, Gordon Brown étaient au front pour essayer de sauver un peu l'économie mondiale. Elle a été très prudente. l'Allemagne a essentiellement contribué à cette austérité excessive qu'on a connue en Europe, et là je serais d'accord avec Christian. Donc moi je suis pas impressionné par le bilan de Madame Merkel, et sur cette affaire, effectivement, je suis plutôt d'accord avec Odile sur ce mythe de la pauvreté qui a explosé.
Ah, c'est pas
elle n'a pas dit ça.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, si vous prenez tous les indicateurs, alors d'abord, il faut rappeler que le taux de pauvreté, c'est un indicateur qui est calculé par rapport à un niveau de revenu médian, et que ce niveau de revenu a beaucoup augmenté, et donc forcément, il y a plus de gens en dessous. Et puis, alors, il y a une enquête que j'ai trouvée absolument formidable, qui est une enquête faite par Destatis, qui est l'INSEE allemand, où on demande aux Allemands, finalement, sur tous les sujets de la vie quotidienne, est-ce que vous pouvez encore vous le payer ou pas? Et donc, est-ce que vous pouvez vous payer un logement? Est-ce que vous pouvez vous payer le chauffage de ce logement? Est-ce que vous pouvez manger de la viande 2 jours de suite? Est-ce que vous pouvez partir en vacances? Et sur tous ces indicateurs, ils sont tous bien meilleurs qu'il y a 10 ans, bien meilleurs qu'avant la crise. Donc, cette idée qu'il y a une explosion de la pauvreté, oui, il y a plus de mini-jobs, mais c'était des gens qui ne travaillaient pas, c'est souvent des deuxièmes jobs. On sait que les femmes travaillaient peu en Allemagne. Donc, oui, il y a une augmentation de la pauvreté, c'est sûr, mais ça n'est pas cette caricature d'explosion de la précarité et de la pauvreté. Et non, le succès du modèle allemand ne repose pas uniquement sur cette précarisation de la main-d'œuvre mal payée.
Allez, Odile Chani.
Alors là, je pense qu'on rentre vraiment dans le débat.
Allez-y.
Qui est aussi le débat de, en gros, est-ce que finalement Angela Merkel a géré un bilan de manière, on va dire, plutôt moins pire que ça aurait pu être, parce qu'on ne peut pas dire que stabiliser le taux de pauvreté et le taux de bas salaire à 22%, c'est quand même une grande réussite. Hein. Est-ce qu'en gros, Angela Merkel, en fait, a hérité des effets positifs des réformes engagées par le chancelier Schröder, et qu'une partie des performances économiques s'explique par ces réformes-là, enfin des performances du marché du travail, ou est-ce que, en gros, finalement, ces performances-là, elles sont dues aussi à d'autres facteurs. C'est-à-dire qu'on est, on peut pas faire l'économie de rappeler, de discuter aussi de ce qu'on impute ou pas aux réformes Hartz.
Alors que votre réponse ?
Et la réponse, c'est que s'il y a bien une chose qui est quasiment impossible à faire, c'est de démêler l'effet de, en gros, l'optimisation de la chaîne de valeur ajoutée par les par les entreprises.
Vous pensez au fait qu'elle délocalise dans les pays de l'Est.
Le fait que il y a eu une privatisation, des réglementations des services des services publics, qu'il y a eu une érosion fondamentale du système de relations professionnelles, avec une érosion extraordinairement forte de la couverture des conventions collectives, de la présence des conseils d'établissement dans les entreprises.
Là, vous nous décrivez un affaiblissement des syndicats.
Alors, on a un affaiblissement fondamental et majeur de tout ce qui est constitutif de ce qu'on appelle un système de relations industrielles.
Mais ça, c'est le Hartz.
Et ça n'a strictement rien à voir avec Hartz. C'est-à-dire qu'en fait, et par ailleurs, on nous dit.
La décentralisation du dialogue dans les entreprises plutôt que dans la branche, c'est pas l'effet des lois.
Non, parce qu'en fait, en Allemagne, comme il y a une autonomie des partenaires sociaux et que c'est garanti par la Constitution, en fait, en gros, cette décentralisation, elle a été négociée par les partenaires sociaux avec un accord qui, alors, est très, 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 très connu en Allemagne, qui s'appelle l'accord de Pforzheim de 2004, qui a, pour la première fois, on va dire, accordée pour, enfin, de manière un petit peu, enfin, différente de celle qui existait auparavant, parce que les accords de dérogatoire existent en Allemagne depuis longtemps, mais pour des circonstances particulières. Mais là, en 2004, on a vraiment, en fait, accordé, enfin, IG Metall, dans la métallurgie, a
le syndicat
accordé des modalités supplémentaires d'accords dérogatoires dans le cadre de la métallurgie.
Juste
pour revenir sur l'impact des réformes, en gros, le dernier point, c'est qu'on dit, souvent, les mini-jobs, c'est quelque chose qui a été créé par les lois, par Hartz. En fait, les mini-jobs, ça existe depuis la fin du 19e siècle. On n'arrête pas, les Allemands n'ont jamais arrêté de se mettre d'accord sur est-ce que c'est bien, pas bien, etc. C'est sûr que ça, c'est des emplois qui, en fait.
Mais ça a explosé.
Mais ça n'a pas du tout explosé. Ce qui a explosé avec les mini-jobs, d'abord, il faut avoir en tête qu'avant avant la réforme de Hartz, avant la réforme des mini-jobs, on ne les comptabilisait pas. Et donc, en fait, c'était un objet statistique qui n'existait pas, parce qu'on considère en Allemagne que c'est pas des vrais boulots. Et les gens, Les gens, quand vous les interrogez dans le cadre des enquêtes sur les forces de travail, etc., quand vous leur dites « Ah, est-ce que vous travaillez ?»« Oui, non, je suis étudiante. »« Ah bon, est-ce que vous avez travaillé la semaine passée ?»« Ah oui, peut-être. »
Donc, fait, différence historique et culturelle entre la France et l'Allemagne.
Mais la question du « qu'est-ce qu'elle a fait comme grande réforme ou pas ?» Effectivement, il faut se dire « mais est-ce qu'il y avait des choses à faire ?» Finalement, c'est ça. Et ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher, c'est qu'il y a quand même des grands défis à venir sur lesquels, pour le coup, l'Allemagne, elle prépare pas vraiment bien l'avenir. Alors il y a un sujet quand même sur lequel il faut pas être injuste, Emmanuel, avec elle, et qui pour moi qui sera son grand acte de ces trois mandats, c'est ce qu'elle a fait sur l'immigration. C'est-à-dire la façon dont elle met en regard un problème démographique allemand et un problème humanitaire, et qu'effectivement elle prend une vraie décision majeure qui engage l'avenir du pays sur plusieurs décennies. Ça pour moi, ça restera un acte fort.
Christian Chavagneux, on a beaucoup parlé des Allemands, du peuple allemand, de la population. Que dire des entreprises? Est-ce que les entreprises, elles ont une raison de faire du dégagisme?
Les entreprises, elles ont plusieurs problèmes. Il y en a un qui est comment est-ce qu'on se finance en Allemagne aujourd'hui? Et là, on voit que le secteur bancaire, c'est un point de fragilité énorme. On l'a vu l'actualité de ces derniers jours. Une des plus grandes banques allemandes va peut-être se faire racheter par BNP Paribas ou par UniCredit, la banque italienne. Les Landesbanken, l'Allemagne, c'est un pays décentralisé. Donc, les régions ont plein de pouvoir. Il y a des banques régionales. Ces banques régionales, au moment où on a dit bon, les banquiers centraux, ils contrôlent peut-être pas bien leurs banques, on va faire un contrôle au niveau européen. Les Allemands, ils ont mis la barre à un certain niveau pour être sûr que leur petite banque, elle passerait sous le radar du contrôle des banques de superviseurs de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Parce que c'est plein de cadavres dans les placards. Donc vous avez tout ce système de petites banques régionales, c'est bourré de crédits complètement pourris, et ça les Allemands veulent pas qu'on aille regarder. Et puis vous avez la banque malade de l'Europe, c'est la Deutsche Bank. Il y a une grande banque internationale en Allemagne, c'est la Deutsche Bank. Elle est complètement pourrie. La seule banque européenne qui ne va pas assez loin dans la mise en œuvre des meilleurs contrôles des risques et tout ça, c'est la Deutsche Bank. Donc voilà, il y a les entreprises, il y a ce problème de la banque, il y a quelque chose qui va très bien, c'est le nucléaire. Et là je ne serai pas d'accord avec Emmanuel pour dire qu'elle n'a rien fait. C'est que oui, il y a les migrants, mais le nucléaire, c'est un boom industriel, un changement industriel incroyable. Et puis il y a la fameuse cogestion quand même si les conventions collectives ont moins couvertes, il faudra quand même dire un mot de la cogestion.
Et puis il y a le problème aussi de l'investissement. On a un ce qui est quand même un énorme problème pour les entreprises.
Oui, c'est un défi. L'Allemagne n'investit pas assez, et quand on a les comptes, enfin
ni au privé ni au public,
ni dans le privé ni dans le public, et quand vous avez des excédents budgétaires, mais que vous avez aussi un investissement public dont la valeur ne cesse de se dégrader au fil des années, avec des problématiques sur la qualité des réseaux téléphoniques,
on va en parler, Emmanuel,
la qualité des réseaux routiers, etc. Oui, c'est un pays qui et même des écoles, etc. Ben, bref, c'est un pays qui devrait dépenser plus pour son avenir.
Alors, on va revenir sur chacun des points là évoqués par Christian Chavagneux, mais je vous propose d'abord d'écouter un des économistes stars, on peut dire, un des économistes qui fait bouger le pays en Allemagne. Il s'appelle Marcel Fratscher, de l'Institut de Recherche DIV. C'est l'auteur du livre « L'illusion allemande ». Lise Joly est allée le rencontrer à Berlin, et pour Marcel Fratscher, ce manque d'investissement dont on vient de parler, dont vous venez de parler, Emmanuel, il crève les yeux.
Ça se voit avant tout dans les transports. Chaque année, entre 7 et 10 milliards d'euros sont nécessaires pour garder en l'état les infrastructures dans les transports. De nombreux ponts sont en piteux état. De nombreux ouvrages autoroutiers doivent être fermés car ils ne sont plus praticables. Et nous le constatons aussi dans le numérique. L'Allemagne a une très mauvaise infrastructure numérique, une vitesse de transmission très basse, qui est un problème pour les entrepreneurs. Nous voyons ça aussi dans le domaine de l'énergie. L'Allemagne investi dans les énergies renouvelables, mais les réseaux manquent en partie pour transporter cette énergie qui vient du nord vers le sud. Et nous le constatons encore dans le domaine de l'éducation. Rien que pour les écoles, 35 millions d'euros sont mobilisés pour ces infrastructures dans la formation. Et l'Allemagne a un gros problème d'investissement.
L'Allemagne est riche. Comment peut-on expliquer qu'elle n'arrive pas à entretenir ses infrastructures?
Le fédéralisme en Allemagne, cela signifie que la moitié des investissements publics viennent des communes. Mais un tiers d'entre elles ont des finances déficitaires, ou sont criblées de dettes, et ne peuvent donc pas dépenser. Et où réduit-on d'abord la dépense? Eh bien dans les investissements, car on ne peut pas couper les subventions qui touchent le social. Le deuxième problème de fond, c'est assurément la réduction de la dette. La fédération ne doit pas aggraver la dette. Et les communes et les lenders doivent avoir un budget structurellement équilibré. Dans les mauvais jours, eh bien, ce sont les investissements que l'on réduit. Et dans les bons jours, ces mêmes investissements n'ont pas été suffisants. Et cette réduction de la dette a joué un rôle très important.
Y a-t-il un débat dans la société allemande autour de cette nécessité de moderniser les infrastructures?
Oui, il y a un débat en Allemagne sur la nécessité d'investir. De nombreuses communes se plaignent, de nombreux parents déplorent que l'école de leurs enfants tombe en décrépitude, que les routes soient mal entretenues et en mauvais état. Mais en même temps, en politique, on sait qu'une fois que les investissements décidés, ça prend du temps avant qu'ils ne soient réalisés et qu'on en voit le résultat. Et c'est peut-être plus payant vis-à-vis des électeurs de promettre des baisses d'impôts et une augmentation de retraite. Et c'est hélas ce que font aujourd'hui les politiques qui ont une vision à très court terme pour récolter des voix davantage que pour assurer l'avenir.
Oui, le patronat allemand, il s'inquiète. Hein. Il dit on n'a pas assez de ponts. Cette puissance industrielle allemande, quand elle a un problème pour faire rouler ses camions sur des ponts, c'est quand même un souci pour l'avenir. Christian Chavagneux, est-ce que l'Allemagne le prépare assez cet avenir? Vous avez commencé à identifier des grands défis.
Oui, il y a plusieurs défis. Il y a le nucléaire, par exemple. Ça, c'est vraiment un défi énorme. Il y a eu une transformation de la production d'électricité en Allemagne, mais c'est un défi industriel.
Alors, on peut
que
rappeler
l'Allemagne,
le contexte.
Voilà, est en train de gagner. Il y a eu, bien sûr, Fukushima, donc 2011. Le nucléaire, 2011. Les Allemands décident de sortir du nucléaire. C'est quand même un grand pays industrialisé qui s'appuie en partie sur le nucléaire et qui décide de passer aux énergies renouvelables comme source prioritaire de production d'électricité. Bien évidemment, ça commence par faire quoi ? Par augmenter le prix de l'électricité. En même temps, quand vous regardez le poids de la dépense d'électricité dans les dépenses des ménages, hein, si vraiment le prix de l'électricité explose...
Ça a doublé. A doublé entre...
En fait, 2% des dépenses des ménages en 90, aujourd'hui 2,6% en 2016. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, ils ont fait des économies d'énergie beaucoup plus que nous. Donc même si le prix augmente, comme le volume est réduit, eh ben, ça coûte moins cher. Et en plus, aujourd'hui, ça continue à plonger. Parce que pourquoi ? Le prix des énergies renouvelables éolien photovoltaïque, aujourd'hui un kilowattheure éolien photovoltaïque en Allemagne, c'est deux fois plus faible que le prix d'un réacteur nucléaire. Alors tout le pipeau consiste à dire, oh mais ils ont remplacé nucléaire par charbon, tout ça, ça a duré juste 2 ans. Hein, c'est vraiment Vincent Boulanger qui est le meilleur spécialiste de la transition énergétique en Allemagne, explique ça très bien. Il y a eu, oui, un recours au charbon, pas du tout au nucléaire français. Un recours au charbon qui a duré 2 ans pour des raisons de transition, mais aujourd'hui, ça plonge complètement. L'Allemagne devrait toujours faire des efforts pour réduire le charbon, mais aujourd'hui, cette industrie est engagée dans le post-nucléaire. C'est incroyable, ils sont en train de réussir ça.
Donc vous êtes en train de nous dire que c'est pas un obstacle.
Ça, c'est un vrai succès. Il y a un coup de transition, mais c'est un vrai succès et pour l'avenir.
Bon, autre défi, Emmanuel Le Chip, pour l'avenir. Ou Odile Chani, la cogestion? J'ai l'impression que vous avez plus envie de nous parler de cogestion que d'énergie.
De maintenant, si on est sur les défis de l'avenir, il y a quand même... on parle beaucoup du vieillissement démographique, évidemment. Enfin, il y a tout ce qu'on vient de dire sur l'investissement qui est fondamental. Mais si on regarde le processus de vieillissement démographique, en gros, l'Allemagne est le pays d'Europe qui est déjà d'Europe des économies avancées, hein, qui a un processus de vieillissement qui est déjà avancé et qui va faire face à une augmentation très importante des dépenses et de retraite, mais surtout aussi de dépendance. Et c'est un point qu'on regarde moins souvent parce qu'on a plutôt l'habitude de se focaliser sur les retraites. Et or là, on a beaucoup à dire parce que c'est vrai, l'Allemagne a été en réforme permanente des retraites. Enfin, toute réforme des retraites était la réforme définitive, mais c'est souvent le cas. Et puis, ce qui se passe, c'est que les dernières projections officielles du gouvernement montrent qu'en gros, les paramètres d'objectifs des régimes, on va dire qu'on se donne une limite maximum au taux de cotisation et une baisse limite donnée et maximum du taux de remplacement, c'est-à-dire de la retraite que les gens vont pouvoir avoir, en gros, ça ne tient plus. Ça veut dire que là, il va falloir effectivement faire quelque chose, sachant qu'en plus en Allemagne, il y a une sorte de phobie absolue de tout ce qui est une augmentation du taux de cotisation. C'est-à-dire que c'est vraiment, s'il y a bien quelque chose qui a gouverné toutes les réformes des retraites, c'était de dire
on ne veut pas augmenter le taux de cotisation. Donc ça, c'est un,
ça, c'est un point de fragilité.
C'est un point de fragilité, la dépendance. La dépendance, si on regarde certaines projections, ça nous amènerait à plus de 4 points de hausse du taux de à l'assurance dépendance, avec une progression de 4 millions de personnes dépendantes. Et on a là aussi une Allemagne qui est déjà avancée dans, d'abord, la réflexion. Et ça peut être un modèle. Si pour le coup, il peut y avoir une réflexion sur l'idée que l'Allemagne puisse être un modèle, c'est aussi que sur certains champs de la protection sociale, elle a réfléchi à un dispositif vraiment complet, et notamment sur la dépendance, qui est une vraie branche de l'assurance sociale, qui est une suite de l'assurance maladie, mais qui n'est pas sans poser problème. Et alors,
ça explique son comportement d'épargnant, le comportement de sous-investissement.
Juste pour terminer, parce que et je répondrai à votre question après. Et là où ça boucle de manière extrêmement intéressante sur les réfugiés, c'est qu'en fait, le problème de l'Allemagne et le gros défi de l'Allemagne, ça va être le manque de compétences. Et la grosse interrogation qu'on a, c'est quelles sont les compétences que ces nouveaux arrivants sur le sol allemand, qui sont encore très très éloignés du marché de l'emploi, auront. Et là où ça devient vraiment quelque chose sur lequel on peut commencer à être interpellé, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent qui sont des diplômés de professions de santé, etc. Donc en fait, d'une certaine manière, ça nous raconte peut-être une histoire d'une sorte de cohérence où on quitte un peu l'idée qu'on est complètement toujours centré sur cette Allemagne, puissance industrielle, etc. Mais on a une Allemagne qui va de facto, avec le vieillissement, voir monter des problématiques de soins, de santé, de care, hein, qui sont déjà là, et avec d'une certaine manière un flux de migrants qui va peut-être.
Mais qui ne va pas suffire, Odile Chani. Alors, qui ne suffira pas à résoudre l'ampleur de ce problème.
Non, bien sûr. Oui. Mais au moins, on voit bien qu'effectivement, il y a des sortes d'articulations et de complémentarités. Et d'ailleurs, dans les dernières projections dont on dispose sur, en gros, les besoins en compétences, etc., les manques les plus importants se retrouvent pas du côté des métiers de la mécanique, d'électronique, etc. Ils se retrouvent sur les métiers de la santé.
Donc, problème de compétences, ça aussi un des défis de l'avenir. Emmanuel Le Chypre, cette Allemagne prépare-t-elle assez le futur?
On voit bien que les défis sont considérables. En tout cas, ce modèle allemand, ce qui fait aujourd'hui la force de l'économie allemande, va sans doute muter. On voit que c'est une économie qui a été basée pendant très longtemps sur l'hyper-compétitivité à l'export, en restreignant plutôt la demande intérieure, et on voit que c'est un modèle qui va progressivement basculer vers davantage de services, vers davantage aussi de demande intérieure. Et donc c'est tout le défi de l'épargne. Alors il y a l'épargne, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand vous avez un excédent extérieur qui est gigantesque, un 8% du PIB, mais qui s'explique pour la moitié par l'excès d'épargne, vous vous dites qu'il y a de l'argent. Je reviendrai pas sur le débat sur le défi énergétique, parce que l'Allemagne n'est pas le paradis vert que décrit Christian, ou du moins le paradis vert que nous a décrit Christian est loin de faire le consensus qu'il prétendait établir. Mais c'est ça qui est intéressant. Et après, ça pose aussi la question de quelle est la place de ce pays dans l'Europe. Et moi, je crois que le défi d'Angela Merkel au cours du prochain mandat, qui est plutôt une Angela Merkel isolée sur la scène internationale aujourd'hui, coupée un peu des États-Unis, de l'Angleterre, de la Russie, je crois qu'il y a une carte à jouer aussi pour... Je n'ajouterai rien à ce qu'a dit Odile sur le futur du modèle allemand, sur l'équation, mais il y a une dimension européenne dans cette équation qui fait que l'Allemagne va forcément devenir plus tournée vers une solidarité européenne. Et ce ne sera plus l'Allemagne qui a fait sa prospérité sur le dos, entre guillemets, avec une hyper-concurrence par rapport à ses anciens partenaires. Et ça peut être intéressant aussi.
Christian Chavagneux, est-ce que l'Allemagne, que peut-on dire du futur? Est-ce que l'Allemagne est un problème ou une solution pour l'Europe? Est-ce que vous croyez, comme Emmanuel, que le Brexit change la donne, que l'Allemagne va moins faire cavalier seul?
Non, je suis pas sûr. L'Allemagne aujourd'hui, elle pose un problème énorme, c'est qu'elle épargne trop. 8,5%, l'équivalent de son excédent extérieur, c'est 8,5% de son PIB, on l'a rappelé. Et ça, c'est un double effet déflationniste sur l'économie européenne. À court terme, ça veut dire qu'il y a trop d'épargne en Allemagne, donc il n'y a pas assez de dépenses d'investissement, public et privé, on l'a rappelé tout à l'heure. Mais du coup, vous savez, l'Allemagne, c'est le seul pays de l'OCDE où les nouvelles dépenses d'investissement public sont inférieures à l'usure des équipements. Donc on est vraiment sur un pays qui est en train de se dégrader complètement. Et à moyen long terme, elle n'investisse pas dans le développement de l'Europe. C'est pas possible d'avoir, quand on a un grand pays industrialisé, un excédent d'épargne aussi important. Il faut le redistribuer. Or, cet argent qu'elle a en excédent, elle ne le redonne pas à l'Europe. Elle l'envoie dans le reste du monde. Donc, effet déflationniste de court terme et de moyen terme. On peut toujours faire un ministre des Finances de la zone euro et tout ça. Ça va pas régler le problème macroéconomique de fond. L'Allemagne tire l'Europe vers le bas.
Odile Chani.
Alors, je vais juste rebondir sur un point qui vient d'être dit par Christian Chagnus sur l'investissement. On n'en a pas parlé là, mais c'était présent dans l'interview de Marcel Fratchin. C'est que derrière ça, il y a aussi la propre rigueur budgétaire que s'est imposée l'Allemagne avec la règle budgétaire, ce qui n'est pas d'ailleurs sans entrer en résonance avec les débats et la capacité de solidarité de l'Allemagne en Europe. C'est qu'en fait, une des raisons pour lesquelles on se retrouve aujourd'hui dans une situation de déficit massif d'investissement en infrastructure, c'est parce que d'une certaine manière, on a une sorte de jeu de domino où dans le fédéralisme budgétaire où la loi fondamentale garantit une égalité des citoyens sur le territoire, en fait, l'État fédéral s'est imposé une règle d'or qui s'est répercutée sur les lenders, qui s'est répercutée sur les communes. Et les communes en Allemagne se retrouvent à gérer à peu près, un peu comme d'ailleurs on le retrouve en France, sur les collectivités, le fait de devoir payer l'aide sociale et avoir une partie des dépenses d'aide aux réfugiés. Et en gros, en fait, on a aujourd'hui un massif problème de cohésion territoriale. Et on ne peut pas, je pense, penser la façon dont l'Allemagne se
projette en Europe.
Oui, sans penser aussi qu'elle a de graves difficultés.
Mais vous voyez,
de cohésion.
Ça, c'est vraiment une explication typique de la spécialiste, c'est que les Allemands sont tournés vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Il n'y a pas de vision européenne de la part de l'Allemagne. Moi, ça me gêne beaucoup.
Odile Chani, alors le mot de la fin, dites. Vous avez
l'info? Non, mais je pense que les Allemands sont fondamentalement attentifs à leurs propres intérêts, mais par contre, qu'ils ont aussi conscience, et probablement ça aussi c'est en train de bouger, qu'ils ne peuvent pas faire sans l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, et c'est aussi toute l'interrogation de la prochaine coalition.
Emmanuel Le Chypre.
C'est un pays qui a fait beaucoup d'efforts, qui a donné aussi beaucoup à l'Europe et qui légitimement a le droit de considérer que c'est pas forcément tous les autres pays voisins qui sont plutôt mal gérés qui doivent leur donner des leçons de solidarité européenne. Donc, mais toutes les tendances lourdes qu'on a décrites, la démographie, etc., font que il y aura sans doute une Allemagne. Moi, je crois plus européenne quand même dans les années qui viennent.
Emmanuel Le Chypre, Odile Chani, Christian Chavagneux, merci à vous les débatteurs de ce matin. Odile Chani, je rappelle le titre de votre ouvrage, Faut-il suivre le modèle allemand? C'est édité par la Documentation française, écrit avec Sabine Le Bagnon et Christophe Blot, Dankeschön à Frau Jolie. Et je vous recommande, amis auditeurs, de ne pas manquer demain le magazine Interception, un reportage sur l'Allemagne vieillissante dont vous nous parliez, Odile Chani, signé Cyril Sauvageau. Ça sera de 9 à 10 sur France Inter. Pour le moment, c'est le Magéco. Il est 9h44 à Paris comme à Berlin et il est une heure de moins à Londres.
Today, Transport for London announced that it would not be renewing Uber's license to operate in the city.
Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Antoine, vous êtes le correspondant de France Inter dans la capitale britannique. Est-ce que Londres, c'est l'actualité d'hier hein, et de ce matin, est-ce que Londres va faire disparaître ses taxis Uber?
Eh bien, c'est tout à fait possible, oui. Pour avoir le droit d'opérer dans la capitale, il faut une licence. Celle d'Uber est valable jusqu'à la fin du mois de septembre et elle ne sera pas renouvelée. La raison donnée par l'autorité des transports, la voilà. On ne peut pas faire suffisamment confiance à la société américaine parce qu'elle ne contrôle pas suffisamment ses chauffeurs. Ils sont 40 000 à Londres, parfois avec des certificats médicaux douteux. Lorsqu'ils sont témoins de crimes, ils ne se signalent pas suffisamment à la police. Certains, enfin, ont des casiers judiciaires. Mais c'est aussi et surtout à cause de son fonctionnement qu'Uber est obligé de rentrer au parking, à cause d'un logiciel qui permet aux voitures de passer inaperçues et d'entrer dans des zones où, en théorie, elles n'ont pas le droit de se trouver. Conséquence, donc, la société américaine est bannie des rues de Londres pour les 5 prochaines années. Elle a 3 semaines pour faire appel. Réaction furieuse du directeur local. Les 3,5 millions de londoniens qui utilisent notre application vont être, dit-il, estomaqués. Et les représentants des taxis, eux, applaudissent. Sadiq Khan aussi, le maire de Londres, qui avait récemment débloqué des fonds pour aider les chauffeurs et augmenter le nombre de voies qui leur sont réservées dans la capitale.
Antoine Gignot, le correspondant de France Inter au Royaume-Uni. Merci à vous. Elle est quoi? Elle est 50 fois plus petite qu'Uber, cette licorne, mais elle est française et son patron vient de s'asseoir dans le 521.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Frédéric Mazzella.
Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de BlaBlaCar, c'est une plateforme de covoiturage lancée en 2006, aujourd'hui présente dans 22 pays. Frédéric Mazzella, cette histoire d'Uber, là on a une plateforme de mise en relation, on a un disrupteur des transports publics, vous aussi vous êtes une plateforme de mise en relation, un disrupteur. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer des déboires d'Uber ?
Alors bon, je pense que c'est une progression, normale quand vous arrivez à une certaine échelle. Il faut améliorer les process sans cesse, c'est-à-dire qu'il faut jamais se reposer sur les process précédents. Donc je pense que tout le but c'est de faire avancer les technologies, faire avancer les mœurs aussi en même temps. Et donc en fait à chaque étape de la croissance, eh bien il y a différentes méthodes, différentes régulations qui viennent s'imposer pour justement rendre la chose beaucoup plus démocratique. Donc voilà, je pense que même cette étape là aujourd'hui qu'on voit avec Uber, c'est aussi une manière de faire progresser le service en indiquant très clairement, là, on peut pas faire tellement mieux que de leur dire c'est soit vous améliorez, soit vous arrêtez, d'aider à les faire progresser sur leur processus si ça ne correspond pas à la ville de Londres.
Ouais, le problème c'est quand on essaie de forcer la réglementation.
Bah, en fait, il y a aussi une autre problématique, c'est quand on innove, on est forcément très souvent à la limite de la réglementation. Pourquoi ? Parce que la réglementation est forcément, par définition, toujours un petit peu en retard. C'est le principe même du jeu de l'innovation et de la réglementation. C'est-à-dire que la réglementation ne va pas apparaître tant qu'il n'y a pas une innovation qui la force à apparaître. Donc c'est un petit peu toujours la même chose. C'est-à-dire que on veut progresser, mais en même temps, on aimerait que la régulation soit déjà là, prête pour cette innovation. En fait, elle l'est pas toujours puisque elle-même ne l'avait pas anticipée. Et donc, ensuite, on fait voler la réglementation.
Frédéric Mazzella, les assises de la mobilité viennent d'être lancées cette semaine. Elles vont durer 3 mois. Comment est-ce que vous résumez l'enjeu ? Est-ce qu'on peut dire que il faut remettre à plat tout le système de transport parce que de toute façon, il n'y aura jamais assez d'argent public pour satisfaire tous les besoins ? C'est ça ?
Alors, je dirais pas jusqu'à dire qu'il faut remettre à plat. Je pense qu'on a déjà bien progressé. Alors là, si je parle plus précisément peut-être de la mobilité en Île-de-France, mais on a déjà fait des bons projets pour aller dans le sens de la mobilité quotidienne avec tout ce qui est Grand Paris, avec tout ce qui est prévu qui va être mis en place. En fait, ce qui se passe, c'est que on est en train de se rendre compte qu'il y a d'autres formes de mobilité que celles qu'on connaissait avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire des investissements à des milliards et des milliards en avance de phase pour permettre une mobilité à des millions de gens tous les jours. Et donc, c'est toutes les formes de nouvelles mobilités qui sont en train d'arriver, y compris donc bien entendu le covoiturage. Donc, moi, je suis très heureux que justement on commence à avoir la possibilité de discuter de ces nouvelles mobilités dans le cadre des mobilités en général, puisqu'en fait, on est tous des êtres humains qui se déplaçons. Et donc, on a plusieurs méthodes pour se déplacer. Ça peut être soit en transport en commun, ça peut être en covoiturage, ça peut même être en trottinette. Enfin voilà, tout ça, ça doit être pris en compte.
Vous parlez du covoiturage, là. Alors, vous êtes le leader mondial du covoiturage longue distance. Et la nouveauté, c'est que vous avez lancé, en effet, en Île-de-France, le covoiturage courte distance sur le trajet domicile-travail. Vous n'êtes pas les seuls. Je crois qu'il y a une vingtaine de start-up. Est-ce que là, par exemple, ce n'est pas encore une concurrence pour les taxis ?
Alors, non, parce que personnellement, je ne connais pas grand monde qui va tous les jours en taxi au travail et qui en revient tous les jours.
Pas tous les jours ?
Non, bah, oui, enfin, même. Fin...
Donc, ce n'est pas, une concurrence.
Là, on se positionne sur des trajets domicile-travail. Donc, véritablement, les trajets qu'on fait tous les jours, le matin et le soir. Bon, voilà, il n'y a pas grand monde qui fait des trajets matin et soir en taxi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais... quand même, il y en a vraiment très très peu. Donc, du coup, sur le covoiturage domicile-travail, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on considère toutes les voitures vides le matin, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Vous savez que le taux d'occupation des voitures, alors surtout en Île-de-France, pour aller et venir du travail, c'est 1,05. C'est-à-dire qu'il y a 19 fois sur 20, il y a juste le conducteur à bord, et une fois sur 20, vous avez une personne de plus dans le véhicule. Et ça inclut même, évidemment, les déplacements de type familial, hein, ou pour déposer les enfants à l'école. Donc... voilà, on est sur un taux d'occupation des véhicules qui est ridicule, qui est très très faible. Et nous, tout ce qu'on considère, c'est qu'on veut utiliser en fait ce réseau-là de voitures vides pour le mettre à disposition des gens qui veulent se déplacer dans ces voitures-là. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en fait, il y a deux manières de voir un réseau de transport. Quand vous voyez un réseau de transport de type transport en commun, vous avez des trains et des voies qui ont nécessité des investissements. Puis ensuite, vous mettez des conducteurs dans ces trains pour conduire les trains et faire venir les passagers. eh bien, les voitures, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les
routes existent déjà. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a déjà un réseau.
Il y a déjà un réseau. Le réseau est déjà là. Les voitures et les routes sont déjà là. Et même les conducteurs, puisque tous les gens qui vont tout seuls dans leur voiture tous les jours au travail, eh bien, ils peuvent mettre à disposition leur place sur leur trajet. Et donc, c'est très facile. Alors, sur BlaBlaLines, en un clic, vous proposez tous vos trajets pour les trajets domicile-travail. Et ensuite, les passagers peuvent simplement faire des demandes. Alors, c'est sur votre route. L'algorithme qu'on a mis en place sur BlaBlaLines, eh bien, il calcule vos itinéraires et il propose aux conducteurs des passagers sur la route. Donc c'est extrêmement simple, on utilise le réseau des voitures existantes et vides pour permettre à des gens qui n'ont pas de voiture ou qui ont décidé de laisser leur voiture au garage ce matin, eh bien de bénéficier de cette offre-là.
Frédéric Mazzella, on pense à ces assises de la mobilité. Elle est où la révolution, en fait? Comment vous voyez-vous la mobilité, les transports dans les 5, dans les 10 ans? Qu'est-ce que c'est? C'est les applis? Quelles innovations? C'est la voiture autonome? Elle est où la révolution?
Ouais, je pense que la révolution, elle vient, enfin là c'est pas un scoop, mais elle vient de toutes les technologies du numérique qu'on a réussi à déployer. Parce que, mais comme dans beaucoup de secteurs, hein, c'est-à-dire que parce qu'on a maintenant la possibilité, grâce aux bases de données, aux moteurs de recherche et à la connectivité permanente qu'on a d'ailleurs sur nos
smartphones. À l'intelligence artificielle?
Alors l'intelligence artificielle, c'est encore une étape suivante pour apporter plus d'optimisation. Mais là, j'ai envie de dire, on en est encore juste à la, dans ce domaine-là. En tout cas, pour la plupart des services, on en est juste à la possibilité de connecter des objets physiques, des gens, des opportunités, grâce aux technologies de l'information. Enfin, on en est là, c'est-à-dire qu'on est en train de structurer le monde physique. Tout ce qui est sous-utilisé dans le monde physique, eh bien, grâce à la technologie, peut devenir exploité et donc optimisé. Ce qui fait faire des économies à tout le monde. Donc voilà, dans le cas du covoiturage, c'est flagrant, hein, c'est-à-dire que les places libres dans les voitures, il y en a toujours eu. Seulement aujourd'hui, on est capable très facilement de diffuser le fait que, voilà, bah, par exemple, alors, quand on fait du covoiturage longue distance sur BlaBlaCar, vous dites demain je vais à Nantes, j'ai une place, j'ai trois places dans ma voiture à 18h. Bon ben voilà, vous mettez cette information-là à disposition sur le réseau, et puis les passagers.
Donc c'est ça, pour vous la révolution, c'est l'innovation, les applis, tout ce qu'apporte le numérique.
Ah oui, le numérique, je pense qu'on n'a pas fini d'innover avec, et effectivement, on en a encore pour 5 à 10 ans à structurer dans le domaine de la mobilité toutes ces nouvelles formes de déplacement.
Frédéric Mazzella, votre regard sur l'actualité. Aujourd'hui, on va avoir des grosses manifestations contre ce que les insoumis appellent le coup d'État social. Alors franchement, ça vous concerne vraiment. La libéralisation du marché du travail, l'allègement de la fiscalité du capital. Qu'est-ce que ça change pour les start-up ?
Alors, je suis pas un spécialiste, moi, de tous ces sujets-là, hein, parce qu'en fait, c'est des problématiques assez macro et quand
enfin,
vous
on nous dit que ça va provoquer un choc d'investissement, par exemple, l'allègement de la fiscalité du capital. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Ah ben, dans l'absolu, quand vous changez quelque chose sur la fiscalité du capital, forcément, ça engendre des changements dans les investissements, puisque ça dirige quelque part les choix des gens qui vont investir. Donc, évidemment, quand les gens investissent, ils comptent un petit peu tout. Ils comptent non seulement est-ce que ça va grandir comme activité indépendante et donc se démultiplier en valeur économique, et où, quand cette valeur économique aura été créée, quelle sera la taxation apportée à cet investissement-là. Donc forcément, la fiscalité impacte les décisions d'investissement.
Donc là, votre jugement, on fait une flat tax à 30%, on supprime une partie de l'ISF pour qu'on nous dise ça aille sur des investissements plus risqués, c'est bien, c'est mal, ça va payer? Ça alors, va faire des emplois?
Sur ce qui est de l'investissement, alors ça je ne peux pas répondre, hein, je ne suis pas économiste, mais sur ce qui est des investissements, à partir du moment où vous taxez moins les investissements sur des projets de type innovation ou de type, justement, l'innovation est très souvent un investissement assez risqué, puisque justement, par définition, on ne sait pas trop si ça va marcher, eh bien forcément vous allez attirer plus de capital sur cette section-là, et vous avez plus de chances de faire émerger des innovations intéressantes.
Ça aurait changé quelque chose, cette fiscalité-là, au développement de BlaBlaCar ?
Oui, c'est possible, parce que en fait, au tout début, on a eu quelques investissements, notamment alors par rapport à la loi ISF, de gens qui voulaient défiscaliser une partie. Vous savez, les investissements des business angels au début, qui peuvent, par exemple, être moins taxés ou avoir une réduction d'impôt quand vous investissez sur des projets de type risqué. Donc, à partir du moment où vous faites, par exemple, vous faites une différenciation entre le capital immobilier et le capital qui peut être investi dans des projets risqués, eh bien vous allez déporter, si vous taxez l'un et pas l'autre, vous allez déporter les investissements sur l'autre, forcément. Donc à partir du moment où vous faites un équilibre entre la taxation de l'immobilier et des projets d'innovation, et que vous dites par exemple bah, l'immobilier est toujours taxé de la même manière, mais l'innovation l'est moins ou ne l'est plus, eh bien à ce moment-là, vous allez favoriser l'investissement sur, sur l'innovation.
Donc si Frédéric Mazella, plutôt très favorable à cette nouvelle flat tax.
Moi, tout ce qui va dans le sens de l'innovation, je pense qu'il faut le faire. Maintenant, on n'arrête pas le progrès comme on n'arrête pas l'écho, donc il faut y aller.
Maintenant, c'est aux chefs d'entreprise d'embaucher pour remercier pour cette politique pro-business.
Alors, ça c'est... Alors...
Allez, en un mot, le mot de la fin.
C'est pas aussi simple que ça. Non, ce qui se passe, c'est que c'est aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs d'innover pour aller créer de l'emploi et ensuite tout suit.
Frédéric Mazella, le président fondateur de Blablacar, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon.
Sandrine, une question de François ce matin pour Ma vie au boulot. Comment convaincre mon employeur de pratiquer l'arrondi sur salaire pour aider une association?
Oui, François, l'arrondi sur salaire, ça se joue à deux. D'un côté, les salariés volontaires acceptent que de petites sommes, de 50 centimes à 10 euros, soient retirées tous les mois de leur salaire net. Mais l'idée, c'est que de son côté, l'employeur abonde cette somme. Cet argent est ensuite intégralement reversé à des associations. Par exemple, la société de Richebourg Multiservice double à chaque fois le montant des dons des salariés. Depuis 6 ans. Ce système existe en France, le groupe Up, Accenture, la Maïf ou l'éditeur de logiciels Cegid se sont convertis à l'arrondi sur salaire. L'entreprise sociale Microdon, qui gère ses dons participatifs, assure qu'en 2016, plus de 200 entreprises ont participé, ce qui représente plus de 100 000 salariés pour un don moyen de 2,27 euros par personne. En tout, près de 500 000 euros ont été récoltés et reversés l'an passé. François, vous pouvez plaider que c'est bon pour l'image de votre entreprise, bon pour l'esprit d'équipe, bon pour la solidarité, puisque vous pouvez choisir ensemble les associations bénéficiaires, bon aussi pour les impôts. Vous pouvez déduire ces sommes de votre déclaration de revenus.
Mais est-ce que ça suffit à convaincre les salariés et les entreprises, Sandrine?
La mesure commence à décoller. Elle rapporte moins que l'arrondi en caisse, qui permet dans certains magasins d'arrondir vos achats à la virgule au-dessus, et là au-dessus, et là aussi, d'en faire bénéficier des associations. Ça marche beaucoup moins bien qu'au Royaume-Uni. Là-bas, le payroll giving existe depuis 30 ans. Chez nous, on considère que c'est aux entreprises de se montrer généreuses. La mise en place de l'arrondi sur salaire ne garantit pas un succès complet. Le taux de participation des salariés varie entre 15 et 25% selon les entreprises. La bonne nouvelle, c'est que les gros cabinets spécialisés dans la rémunération, les Deloitte, les Aon, les Willis Towers Watson, prévoient des augmentations de salaire qui iront de 1,8 à 2,4% cette année. De quoi se montrer plus magnanime que d'habitude.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.